Hamuncho, deuxième partie, chapitre 8. 8 jours après. À la tombée du soir, tandis qu'une mauvaise rafale de montagne tordait les branches des arbres, Raymond rentrait dans sa maison déserte où le gris de la mort semblait épandu partout. Un peu d'hiver avait passé sur le Pays basque, une petite gelée, brûlant les fleurs annuelles, mettant fin à l'illusoire été de décembre. Devant la porte de Franchita, les géraniums, les dahlias venaient de mourir, et le sentier d'arrivée qu'on ne soignait plus disparaissait sous l'entassement des feuilles jaunies. Pour Hamuncho, cette première semaine de deuil avait été occupée par les mille soins qui bercent la douleur. Orgueilleux lui aussi, il avait voulu que tout fût fait d'une façon luxueuse, suivant les vieux usages de la paroisse. Sa mère avait été emportée dans un cercueil garni de velours noir et de clous d'argent. Puis il y avait eu les messes mortuaires, auxquels étaient venus les voisins aux grandes capes, les voisines, enveloppées et encapuchonnées de noir. Et tout cela représentait beaucoup de dépenses pour lui qui était pauvre. De la somme donnée jadis au moment de sa naissance par son père inconnu, très peu de choses lui restaient, la majeure partie ayant été perdue chez des notaires infidèles. Et à présent, il faudrait quitter la maison, vendre les chers meubles familiers, réaliser le plus d'argent possible pour la fuite aux Amériques. Cette fois, il rentrait chez lui avec un trouble particulier, parce qu'il allait faire une chose remise de jour en jour, et sur laquelle sa conscience n'était pas en repos. Il avait déjà visité, trié tout ce qui venait de sa mère, mais la boîte contenant ses papiers et ses lettres demeurait encore intacte, et ce soir, il l'ouvrirait peut-être. Il n'était pas bien sûr que la mort, comme tant de gens le pensent, donne le droit à ceux qui restent de lire les lettres, de pénétrer les secrets de ceux qui viennent de s'en aller. Brûler, sans regarder, lui semblait plus respectueux, plus honnête, mais aussi c'était détruire à tout jamais le moyen de retrouver celui dont il était le fils délaissé. Alors, que faire? Et d'ailleurs, de qui prendre conseil quand on n'a personne au monde? Au fond de la grande cheminée, il alluma la flambée des soirs. Puis, il alla chercher dans une chambre d'en haut l'inquiétante boîte, la posa sur une table près du feu, à côté de sa lampe, et s'assit pour réfléchir encore. En face de ces papiers presque sacrés, presque défendus, qu'il allait toucher, et que la mort seule avait pu mettre entre ses mains, il avait en ce moment conscience, d'une façon plus déchirante, de l'irrévocable départ de sa mère. Voici que des larmes lui revenaient, et qu'il pleurait là, seul dans ce silence. À la fin, il l'ouvrit, cette boîte. Ses artères battaient lourdement. Sous les arbres d'alentour, dans l'obscure solitude du dehors, il croyait sentir que des formes se précisaient, s'agitaient pour venir le regarder aux vitres. Il entendait des souffles étrangers à sa propre poitrine, comme si l'on respirait derrière lui. Des ombres s'assemblaient intéressées à ce qu'il allait faire. La maison s'emplissait de fantômes. C'étaient des lettres, conservées là depuis plus de 20 ans, toutes de la même écriture. Une de ces écritures, à la fois négligée et facile, comme en ont les gens du monde, et qui, aux yeux des simples, sont un indice de grandes différences sociales. Et tout d'abord, un vague rêve de protection, d'élévation et de richesse détourna le cours de ses pensées tristes. Il ne gardait aucun doute sur la main qui les avait écrites, ces lettres-là, et il le tenait en tremblant, n'osant encore les lire, ni même regarder le nom dont elles étaient signées. Une seule avait conservé son enveloppe. Alors il déchiffra l'adresse. « À Madame Franchita Duval. » Ah oui, il se souvenait d'avoir entendu dire que sa mère, à l'époque de sa disparition du Pays basque, avait pour quelque temps pris ce nom-là. Suivait une indication de rue et de numéro. Il lui fit mal à lire sans qu'il pût comprendre pourquoi, qu'il lui fit monter le rouge aux joues, puis le nom de cette grande ville dans laquelle il était né. Les yeux fixes, il restait là, ne regardant plus. Et tout à coup, il eut l'horrible vision de ce ménage clandestin, dans un appartement de faubourg, sa mère, jeune, élégante, maîtresse de quelque riche désœuvré, ou bien de quelque officier peut-être. Étant au régiment, il en avait connu de ces ménages-là, qui sans doute se ressemblent tous. Il y avait rencontré pour lui-même de bonnes fortunes inespérées. Un vertige le prenait, à entrevoir ainsi sous un aspect nouveau celle qu'il avait tant vénérée. Le cher passé chancelait derrière lui, comme pour s'effondrer dans un désolant abîme. Et sa désespérance se tournait en une exécration soudaine contre celui qui lui avait par caprice donné la vie. Oh, les brûler au plus tôt ces lettres de malheur. Et il commençait de les jeter les unes après les autres, dans le feu, où elles se consumaient avec de subites flammes. Une photographie pourtant s'en dégagea, tomba à terre. Alors il ne put se tenir de l'approcher de sa lampe pour la voir. Et son impression fut poignante, pendant les quelques secondes où ses yeux, à lui, se croisèrent avec ceux à demi effacés de l'image jaunie. Cela lui ressemblait. Il retrouvait avec un effroi profond quelque chose de lui-même dans cet inconnu, et instinctivement il se retourna, s'inquiétant si les fantômes des coins obscurs ne s'étaient pas approchés par derrière pour regarder aussi. Elle eut à peine une appréciable durée, cette entrevue silencieuse, unique et suprême avec son père. Au feu aussi l'image. Il la jeta, d'un geste de colère et de terreur, parmi les cendres des dernières lettres. Et tout ne laissa bientôt plus qu'un petit amas de poussière noire, éteignant la flambée claire des branches. Fini, la boîte était vide. Il lança à terre son béret qui lui donnait mal à la tête, et se redressa la sueur au front, un bourdonnement aux tempes. Fini, anéanti, tous ses souvenirs de faute et de honte, et à présent, les choses de la vie lui paraissaient reprendre leur équilibre d'avant. Il retrouvait sa vénération douce pour sa mère, dont il lui semblait avoir purifié, un peu vengé aussi, la mémoire par cette exécution dédaigneuse. Donc, son destin venait d'être fixé ce soir à tout jamais. Il resterait le Ramuncho d'autrefois, le fils de Franchita, joueur de pelote et contrebandier, libre, affranchi de tout, ne devant ni ne demandant rien à personne. Il se sentait rasséréné, sans remords, sans frayeur non plus, dans cette maison mortuaire d'où les ombres venaient de disparaître, apaisés maintenant et amis.